le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Il y a deux ans, le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait son opération spéciale en Ukraine. Deux ans plus tard, la guerre fait toujours rage. Le Soir vous a proposé un ensemble très large ce week-end pour revenir sur ces deux dernières années. L'un de nos journalistes s'est rendu en Ukraine, on va l'entendre dans un instant. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ça fait deux ans que les Ukrainiens et les Ukrainiennes vivent dans une nouvelle réalité, une réalité faite de missiles, de sirènes d'alerte et de couvre-feu, une réalité de guerre depuis l'offensive lancée par la Russie le 24 février 2022. À l'occasion de ce triste anniversaire, les journalistes du Soir vous proposent un large dossier avec notamment du reportage et des témoignages. Il faut lire, par exemple, le papier de notre correspondant Pierre Alonso dans la ville de Kherson. Il nous avait envoyé un petit message en arrivant dans la ville.
La journée, elle a commencé. C'est très tôt, puisque vers 2h ou 3h du matin, des explosions m'ont réveillé. Alors c'est très courant à Kherson, puisque les positions russes sont de l'autre côté du fleuve, à une poignée de kilomètres seulement. Donc il y a très régulièrement des tirs sur la ville. Et en fait, moi cette nuit, du coup, je me suis rendormi presque aussitôt. C'est la troisième fois que je viens à Kherson depuis un an. Et à chaque fois, j'ai l'impression que la situation empire. Il y a de plus en plus de bâtiments détruits, moins d'habitants. Les habitants ont des mines qui paraissent plus fermées, plus renfrognées, plus fatiguées. Le contact est parfois plus difficile à établir. Hier, on est arrivé à la nuit tombée. Il y avait très peu de fenêtres éclairées et il n'y a pas d'éclairage public. Donc, la ville est plongée dans le noir. Il n'y avait évidemment personne dans les rues. Donc c'est une atmosphère qui est quand même assez pesante.
Philippe Debouc, du pôle international, est lui parti dans l'est du pays, dans la région de Transcarpathie. On l'a appelé pour qu'il nous explique ce qu'il a vu sur place.
Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre.
Vous êtes donc parti en reportage en Ukraine à l'occasion des deux ans de l'invasion russe de 2022. Vous vous êtes notamment rendu en Transcarpathie, une région dans le sud-ouest du pays. Pourquoi là-bas ?
Parce que c'est une région qui est donc très éloignée du front et c'est un des rares endroits où il n'y a pas de couvre-feu. Tout le reste de l'Ukraine est soumis à un couvre-feu en général de 23h ou minuit jusqu'à 5h du matin. Au début de la guerre, c'était 10h du soir, c'était assez tôt. Et donc, c'est aussi une région où pas mal de déplacés internes ont décidé de s'installer provisoirement en attendant que la guerre soit terminée, que la région dont ils viennent soit libérée. Et pour ne pas quitter l'Ukraine, parce que beaucoup de gens qui sont passés par là, donc à peu près 2 millions de déplacés, une grande partie a décidé de quitter l'Ukraine et de se rendre dans les pays voisins et en Europe. Mais 350 000 ont quand même décidé de rester. Et bon, c'est une région un peu montagneuse, un peu différente du reste de l'Ukraine qui est désespérément plate. Et donc c'était l'occasion, après deux ans, d'aller voir comment les Ukrainiens déplacés vivaient ça, et aussi comment les gens qui habitaient là, et qui habitent toujours là, se sont organisés pour les aider. Parce que bon, 350 000 personnes, c'est beaucoup. La Transcarpathie n'est pas une grande région, et elle a quand même réussi à absorber relativement bien, d'après ce qu'on a vu. La solidarité y est toujours assez grande. Il y a moins de déplacés qui arrivent pour le moment, mais il y en a quand même eu beaucoup. Au plus fort, c'était plus de 2000 par jour. Maintenant, c'est, d'après ce qu'on nous dit, 3 ou 4.
Quelle ambiance règne notamment dans Oujgorod, la capitale de la région dans laquelle vous avez pu vous rendre ? On a le sentiment d'être dans un pays en guerre ?
Ben là, pas vraiment, parce que donc comparé à d'autres villes que j'ai vues comme Kiev ou Lviv ou Tcherniv, il n'y a aucun signe distinctif d'un pays en guerre, donc il n'y a pas de chevaux de frise dans les rues. Il y a quand même des militaires qui se baladent, mais ils sont plus là parce qu'il y a sans doute de la famille ou qui sont de passage. Il n'y a pas de checkpoint ni à l'entrée ni à la sortie de la ville. On a entendu juste une fois une petite sirène d'alerte aérienne, mais depuis le début de l'invasion, il n'y a pas eu un seul missile qui est tombé dans la région. Pour les drones de fabrication iranienne que les Russes ont acheté, c'est trop loin. Et donc, c'est aussi une région qui est très proche de la Hongrie, où il y a une minorité hongroise, ce qui peut expliquer en partie pourquoi ils sont un peu plus protégés peut-être que d'autres, vu que Viktor Orban est plutôt pro-Poutine jusqu'à présent. Et c'est la région vraiment la plus éloignée du front. Donc voilà, c'est un cas un peu à part. La vie se déroule, à part ça, tout à fait normalement.
Vous l'avez dit, c'est une région qui accueille, qui a accueilli très nombreux déplacés réfugiés internes. Vous avez pu en rencontrer certains. Ils sont dans quel état d'esprit, eux ?
Donc on en a vu dans deux centres différents. Le premier, c'était une septantaine de personnes, le deuxième, plus d'une centaine. Ce sont essentiellement des familles, des femmes, très peu d'hommes, des enfants. Ben, la plupart, ils croient toujours à la victoire de l'Ukraine. Ils espèrent que leur situation est temporaire, mais ils sont relativement bien installés. Ce qu'on a pu voir, c'était assez moderne, bien équipé au niveau des cuisines, des buanderies, par exemple, surtout dans ce deuxième centre qui occupe deux étages au-dessus d'un ancien hôpital. Et donc, ils ne veulent pas quitter leur pays parce que c'est leur pays. Ils viennent tous de régions très touchées dont les noms évoquent toujours la même chose. Zaporijja, Kherson, Mariupol, Bakhmut, la ville qui n'existe plus, comme nous a dit une dame qui vient de là-bas. Tous ces gens sont là, ils s'organisent, s'occupent. Pas mal continuent à travailler aussi en télétravail. C'est assez remarquable à savoir. D'autres n'ont pas de travail pour l'instant. C'est le cas d'un maçon qu'on a rencontré, un des rares hommes qui, en fait, ne devait plus servir parce qu'il avait trois enfants. Donc, en Ukraine, quand on a trois enfants, on ne doit plus être mobilisable. Ou alors, c'est après trois ans. Mais on n'en est pas encore là, puisque le 24 février, ça fera deux ans que la plupart se sont enrôlés à l'armée, volontairement ou de manière obligatoire, puisque tous les hommes de 27 à 60 ans doivent normalement être mobilisables. Voilà.
Vous avez pu, vous l'évoquer un petit peu, c'est évidemment pas étonnant vu la situation, mais vous avez pu être témoin de nombreuses initiatives de solidarité dans la région. Les locaux ont aussi mis pas mal de choses en place pour accueillir ces déplacés dans les meilleures conditions possibles.
Oui, les deux dames notamment qu'on a rencontrées, donc la directrice de l'Académie de la Culture et des Arts de la ville d'Ouzhgorod, avait organisé des repas dans le hall de gare, puisque la plupart des gens sont arrivés avec des trains d'évacuation. Mm-hmm. Ils ne savaient pas très bien où ils allaient. Y en a qui ont mis deux jours à arriver parce que parfois les trains étaient bombardés, devaient faire des détours, mais ils sont quand même finalement arrivés. Et donc, dans ce hall de gare qui grouillait de monde, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien. Il y en a aussi qui sont morts lors du trajet. Quelqu'un nous a dit qu'il avait rencontré quelqu'un qui était décédé parce qu'il n'avait rien bu pendant trois jours. Bon, il y a eu plein de cas comme ça, mais sinon, la solidarité était assez grande. Une autre dame qu'on a rencontrée, la patronne d'un restaurant, a également organisé des repas dans le hall de gare. Donc, il y en a qui ont aussi créé des logements pour des jeunes mamans parce qu'il fallait trouver quelque chose pour les héberger. C'était quand même en plein hiver, donc il faisait pas très chaud. Mais donc, il y a pas mal d'initiatives comme ça, en tout cas celles qu'on a pu voir, et qui continuent d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, mais il y a toujours des gens qui arrivent, beaucoup moins qu'avant. C'est une certaine routine qui s'est installée, mais il y a quand même des centres d'aide alimentaire, il y en a qui ont tout perdu, donc ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus rien. Ils peuvent venir se servir dans certains endroits qui sont faits pour ça.
Pour le deuxième volet de ce reportage, vous vous êtes aussi rendu à Lviv, plus au nord, toujours à l'ouest du pays. Là, l'idée, c'était de notamment visiter un centre de revalidation.
Oui, c'est le principal centre de revalidation d'Ukraine. C'est une initiative privée. Donc, c'est un entrepreneur du port d'Odessa qui s'appelle Andrei qui a décidé de créer ça parce qu'il trouvait que ce que les blessés de guerre, comment ils étaient traités, c'était pas suffisant. Donc, on a entendu des récits de gens qui ont été, donc des hommes essentiellement qui ont été blessés au combat, qui ont été répartis par l'armée ukrainienne un peu partout dans les pays en Europe et qui n'ont pas été très, très bien pris en charge. Donc, pas de revalidation, par exemple, des mauvaises prothèses, pas de rendez-vous avec un médecin. Ici, ce centre a été créé en l'espace de 4 mois et demi. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un bâtiment hyper moderne qui est encore une partie est encore en construction pour une nouvelle aile où on fera de la chirurgie réparatrice. Pour l'instant, c'est uniquement, exclusivement donc des prothèses. Et la plupart des gens qu'on a vus ont perdu soit une jambe, soit parfois deux jambes, un bras ou un bras, une jambe, deux jambes et deux bras. Mais c'est plutôt rare, heureusement. Mais donc, ces gens sont pris en charge par ce centre, tout frais payé. C'est une initiative privée, ils ne bénéficient d'aucun subside, mais apparemment, ils n'en veulent pas non plus. C'est des fonds ukrainiens, des fonds européens et surtout des fonds américains via une fondation d'un milliardaire américain qui est le fils de Warren Buffett, qui s'appelle Howard Buffett, qui a une fondation et c'est apparemment le principal financier de cet hôpital, qui est donc un centre où on insiste beaucoup, son nom c'est Superhuman Center, on insiste beaucoup sur le fait que les gens qui sont là, on ne va pas s'apitoyer sur leur sort parce que ce sont des héros, des héros qui ont combattu, il y a aussi des civils, mais beaucoup de militaires, et donc il y a de la musique très entraînante dans les couloirs.
On est loin de l'image sinistre qu'on pourrait avoir de ce genre de complexe.
Oui, c'est exactement ça qu'ils veulent faire, justement, que tout soit positif. Et on sent que, enfin, en tout cas, quand on a visité, ça ne sentait pas le fait d'être forcé. Ça avait l'air quand même d'être relativement spontané. Alors, tout le monde n'est pas heureux de sa situation. C'est clair que quelqu'un qui est dans une chaise roulante, qui a perdu ses deux jambes, est quand même de moins bonne humeur que quelqu'un qui a encore une jambe et une prothèse qui lui permet de marcher quasiment normalement. On a vu pas mal de gens qui conduisaient une voiture avec une seule jambe et une prothèse assez sophistiquée. Et ils misent aussi beaucoup sur le fait que on va faire beaucoup de progrès dans les prothèses. On a notamment vu un bras bionique qui permet de faire pas mal de choses quand on a perdu un bras. Donc, et ce centre ne ressemble pas du tout à un hôpital. C'est pas des éclopés qui sont mis dans un coin dont personne ne veut vraiment s'occuper ou qu'on s'impitoie sur leur sort. Il y a vraiment une ambiance et ils insistent beaucoup sur le fait qu'eux veulent montrer qu'ils sont les meilleurs pour ça.
Et oui, c'est ça, ils sont
en train d'aller à l'étranger.
Ouais. Ils sont en train de développer une vraie expertise au final.
Oui. Donc, ils font pas mal de choses eux-mêmes sur place, notamment les chaussons qui sont moulés spécifiquement pour chaque cas. Les prothèses, les pièces, pour l'instant, viennent essentiellement d'Allemagne et des États-Unis, mais sont assemblées là-bas. Donc, ils ont un laboratoire, ils ont des techniciens qui ont plusieurs années de pratique dans les prothèses. Et donc, une fois qu'ils passent, ils peuvent aussi repasser après. Ils ont un accompagnement psychologique, ils suivent des séances de revalidation. On a pu assister pendant plusieurs heures à tout ça, de manière pas vraiment contrôlée. Donc, on a été accueillis de manière positive et ça sentait quand même la spontanéité. Et d'autres reportages prouvent aussi que c'est vraiment... On sent qu'il y a une émulation positive et bon, ce centre est tout neuf, ça se voit, il est hyper moderne. Alors, le problème, c'est qu'il y a une longue liste d'attente. Quand on y était début février, il y avait à peu près 600 dossiers en attente, mais ils espèrent continuer et augmenter leur capacité parce qu'il y en a donc à peu près 600 en attente, ça fait beaucoup. Et là, quand on y était, il y en avait une septantaine et ils passent en moyenne 2 à 3 semaines sur place. Puis, ils s'en vont. Ils peuvent revenir après 90 jours pour une évaluation, pour voir s'il faut faire des réglages de leur prothèse et voir aussi pour le suivi psychologique.
Juste pour terminer, un sentiment général. Après ce reportage, vous les sentez comment, les Ukrainiens ? On est sur une population qui est à bout parce que épuisée par 2 ans de guerre, une population qui a encore l'espoir de voir quelque chose évoluer, une population fataliste qui dit que maintenant elle va vivre avec un couvre-feu et des sirènes pour presque toute la vie.
Le sentiment principal, mon impression d'après ce que j'ai entendu pendant cette semaine en Ukraine début février, c'est que les gens en ont marre, mais qu'ils ne laissent pas tomber les bras. Ils continuent à vouloir défendre leur pays. Ils savent que si jamais on laissait tomber, ils seraient envahis complètement par l'armée russe et qu'ils savent très bien, eux, ce que c'est. Ils ont vécu sous l'Union soviétique, donc ils savent ce que c'est. Comme les pays de l'Est, comme les pays baltes, ils ne veulent surtout pas de ce modèle. Le problème, c'est que la Russie a un modèle autocratique avec une dérive totalitaire. Si c'était une démocratie, ça se saurait et ça se passerait sans doute différemment. Et les Ukrainiens n'en veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils continuent à se battre. Alors, tout le monde ne se bat pas. Tous les hommes ne se battent pas pour l'instant. Et le front tient. Alors oui, ils ont perdu 17% du territoire, mais ils ont récupéré une partie quand même l'année passé. Pour l'instant, le front est fort figé. Il y a eu la chute d'Avdivka la semaine dernière, mais c'était de façon inévitable. C'est pas dramatique. L'essentiel du front, qui fait quand même 2000 km, tient toujours. Et les Ukrainiens comptent beaucoup sur le soutien occidental. Et là, il y a des choses à dire. C'est que bon, le soutien européen, il est là, mais souvent, on réagit avec 6 mois de retard quand on a fourni du matériel. Par exemple, les chars Léopard et autres chars de combat qui sont arrivés un peu tard, qui finalement n'ont pas servi à grand-chose pour la contre-offensive de l'été dernier. Maintenant, ils attendent les F-16, mais ils ne seront pas là avant le mois de juin. Ça permettrait peut-être à l'Ukraine de reprendre l'offensive. Le président a changé, le général à la tête de l'armée. Ce n'est plus Zaloujny, mais un autre. On verra ce que ça va donner. Donc, il y a pas mal quand même d'espoir. La résistance est très forte et ils y tiennent beaucoup. Bon, ils se font un peu à cette nouvelle vie. Ils savent que leur pays est en guerre. Tout le monde le sait. Ça ne se voit pas partout. La vie continue malgré tout. Et quand on va dans des villes qui ne sont pas trop proches du front, même s'il y a souvent des alertes, et de temps en temps des drones ou des missiles qui font des dégâts, les Ukrainiens se sont fait à cette nouvelle donne. Ils n'ont pas vraiment le choix, mais ils vont pas laisser tomber les bras, ça c'est certain.
Merci beaucoup Philippe, on lit en tout cas vos reportages dès ce week-end, les vôtres et toutes les productions du Pôle International à l'occasion de ces 2 ans de guerre en Ukraine. Merci beaucoup Philippe.
Avec plaisir, au revoir Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.